I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On va vous parler de nouvelles techniques d'intelligence artificielle qui génèrent des vidéos, de Google qui abandonne encore un produit, d'Amazon qui présente de nouveaux produits et s'allie à BMW, et d'Elon Musk qui présente un robot. Bon robot ? Mauvais robot ? On va en parler. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 480. Nous sommes en octobre 2022, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement un héros, le héros du jour qui s'appelle Lionel Duclos. C'est toi Lionel qui permet à cet épisode de se faire, bon, toi et tous les autres patriotes, puisque tu as rejoint la grande famille. J'espère que tu es fier et heureux d'être avec nous. Si vous voulez faire comme Lionel et devenir patriote, c'est sur patreon.com/rdvtech. Et on remercie également, bien sûr, SSI78. Je me demande si c'est le fils de SSI78. Ou alors, c'est SSI79 qui est son papa, et ça va en décompte, en compte à rebours. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à SSI00? Grande question. Et Peter Rigal, qui me fait toujours penser aussi à Rugal, l'un des grands méchants de King of Fighters. Donc merci à vous deux aussi, SSI et Peter, producteur de cet épisode. Tu vois, Corben, j'ai des références quand même assez glorieuses, hein, assez intéressantes.
Oui, mais je pensais que ça allait être moi le héros, parce qu'avec toutes les galères qu'on a...
C'est vrai que on était... voilà. Franchement, sur les quatre aujourd'hui, normalement, on était censé avoir l'équipe d'Upload, hein, pour animer l'émission. On avait Jérôme qui a eu un inconvénient, un programme au dernier moment, il n'a pas pu venir. Cédric qui a fait exploser tout Internet sur toute la région et donc il ne peut pas être avec nous. Et Corben, dont l'ordinateur est à moitié en vie, qui réussit à peine à tenir la connexion Discord, mais qui arrive. Je crois que tu es en train de pédaler pour l'alimenter, c'est ça, pendant toute l'émission?
C'est ça, voilà. Je fais du, du biocarburant avec mes épluchures pour le faire tourner.
C'est vrai que moi, qui suis un petit peu ton activité en ligne, tu passes beaucoup de temps dans ton jardin et dans ton potager, hein, ces derniers temps. C'est ta nouvelle passion.
Plus de temps, mais ouais, disons qu'il y a de la surface à entretenir.
Bon bah écoute, merci en tout cas d'être avec nous dans cet épisode. Pour ceux qui ont suivi mon actualité sur Twitter, vous savez que c'était pas gagné qu'on puisse faire un épisode aujourd'hui. D'ailleurs, je sais pas très bien comment ça va se passer, parce que je suis victime de la plus grosse grippe que j'ai eue de... Je vais pas dire de ma vie, parce que je me souviens pas, mais l'épisode dernier, on était avec Chloé et je vous racontais que j'étais un petit peu malade et que c'était quand même un petit peu compliqué, hein. Et c'était que le début. Je n'ose même pas vous raconter ce qui s'est passé après. J'ai carrément dû annuler l'enregistrement d'un podcast, le rendez-vous jeu que je fais normalement le jeudi. J'ai pas pu le faire. Et pour que je fasse pas un podcast, vous savez que ça doit vouloir dire que je suis à l'article de la mort. Donc oui, c'est vraiment... Et c'est pas fini, hein. Là, je me retiens de tousser pour faire cet épisode, pour être là avec vous. Mais bah voilà, je sais pas comment ça va se passer pour l'épisode. Si tout à coup je me mute, Corben, il faut que tu fasses du remplissage. Prépare-toi une chanson ou des rébus ou des trucs comme ça. Enfin non, des rébus à l'audio, ça passe pas très bien. Mais bon, écoutez, on est là quand même, on est d'attaque. Si ma voix, j'ai la voix Patrick mode crooner là, tu vois, la gorge qui est attaquée. J'ai pris les pastilles, les sprays, les médicaments. J'espère que ça va tenir pendant l'heure de l'émission. On va tenter, d'autant plus qu'il y a quand même... Alors, il n'y a pas un gros sujet quand même, mais il y a plein de sujets assez intéressants. Et notamment, alors j'ai quand même, même si on n'est pas en live, parce que franchement, je ne me sentais pas à force, j'ai quand même le retour des jingles. Donc, on va commencer avec la section des infos à retenir, avec son jingle sous vos applaudissements. La première info à retenir, c'est l'annonce de Meta, qui est passée un petit peu inaperçue, je trouve, d'un nouveau modèle de génération par intelligence artificielle. Alors, on vous parle depuis des semaines des modèles de génération d'images par intelligence artificielle qui sont devenus tellement impressionnants qu'on peut les utiliser comme des images normales, des images classiques. Et bien là, on est en train de passer une étape parce que ce que présente Meta, c'est Texte to Video, son programme en intelligence artificielle, qui prend une requête par texte et qui vous en crée une vidéo. Et certains vont me dire que le résultat n'est pas hyper impressionnant. Le résultat n'est clairement pas au niveau de ce qu'on peut obtenir pour des images fixes avec les modèles dont on vous parle depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça, on est d'accord. Mais par contre, on est un petit peu à ce qu'on pouvait obtenir en image fixe il y a, je ne sais pas, peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça. Que les images sont un tout petit peu floues, on a une résolution qui est limitée, et les exemples qu'ils ont donnés, le modèle n'est pas encore accessible au public. Hein, ils ont seulement présenté la chose et donné quelques exemples. Bon, c'est des images qui doivent faire, je ne sais pas, peut-être 256 pixels par 256, peut-être un petit peu plus, et qui durent 5 secondes, on va dire. Mais il n'empêche, le résultat est plutôt cohérent, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, Corben ?
Ouais, bah, franchement, ouais, j'ai vu un peu là, les vidéos, etc. Bon, c'est encore très très moche, hein, mais comme tu dis, c'est du résultat de ce qu'on avait il y a 3 ans, ouais, avec le premier DALL-E, etc.
C'est
maintenant,
ça.
À voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Mais moi, déjà, je vois Midjourney, là, ça fait 2 semaines que je teste Midjourney, donc il permet de générer des images, on va dire, statiques, hein, des peintures, des photos, etc. Avec les bons mots-clés, tu arrives à des résultats qui sont assez bluffants, où tu as une qualité, enfin, tu as l'impression que c'est une photo quoi, qui a été prise avec un vrai humain dessus. Quoi. Là, je pense que ça, rendez-vous dans 2-3 ans, mais à mon avis, on va tous être au chômage. Quoi. les créateurs de contenu sur YouTube, voilà, commencez à préparer la suite parce que.
Clairement, c'est vrai que tu évoquais DALL-E, la première version. Je crois que DALL-E était limité aussi à 256 par 256 pixels, peut-être 512 par 512, quelque chose comme ça, mais je crois que c'était 256 de côté. Là, on est à peu près dans la même configuration avec 5 secondes. Alors, les images, on voit clairement que ce sont des images bizarres. Quand on connaît un tout petit peu, on comprend que c'est des images générées par intelligence artificielle. Mais pour vous donner des exemples du type de requête et de la variété, il y a des requêtes du type un jeune couple qui marche sous une pluie battante, des licornes qui courent sur une plage, un nounours qui fait un autoportrait. Et clairement, il y a des trucs un petit peu plus délirants aussi, mais clairement, le résultat correspond exactement à la requête. Alors, il faut voir, hein, parce que c'est les exemples présentés par Meta, et l'outil n'est pas du tout accessible au public encore. Mais le résultat est, comme on l'a dit plusieurs fois déjà, on a l'impression d'être à ce qu'on faisait en images statiques il y a seulement quelques années. Donc, ça va évoluer et les créateurs de contenu sur YouTube risquent d'avoir du souci à se faire. On est d'accord.
Non, mais je rigole.
Bah, tu sais, on rigole, oui et non, mais il y a des automatisations qui sont possibles quand on allie toutes les briques. Pour faire une présentation de quelque chose de simple, tu fais un texte, oui, un petit peu long que tu vas transformer en vidéo et tu le mets directement de manière automatisée sur YouTube. Combien de créateurs de contenu, moi je... Oula, ça commence. Même pas 10 minutes de podcast. Je regarde beaucoup de contenu de jeux vidéo. Bah, y a beaucoup pour les créateurs de contenu un peu spécialisés sur un jeu spécifique. Quand ils vous parlent d'un sujet, ils mettent juste un une image qui n'a rien à voir avec ce qu'ils disent, enfin, qui est une image de gameplay du jeu auquel vous êtes habitué, enfin, du jeu qu'ils couvrent, et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent spécifiquement. Moi, je suis convaincu que des créations sur des petites explications, on peut créer des batteries entières de vidéos sur, je sais pas, des comment ça marche, des explications sur, oui, même, des trucs, même des trucs relativement sérieux, des trucs d'éducation sur de l'histoire, de la géographie, j'en sais rien.
Ouais.
Bon, tu vois, ça peut multiplier la création de contenu, quoi.
Je vois déjà l'usage de Midjourney, par exemple, pour l'illustration, on va dire, classique. Hein. Tu veux une photo pour illustrer un article. Tu sais, enfin, c'est même pas des... Enfin, c'est des photos, mais ça remplacera jamais un vrai photographe. Mais ce que je veux dire, tu vois, je sais pas si tu lis un peu la presse scientifique, par exemple, tu vois, tu prends un truc comme Science et Vie, Epsilon, enfin tout ce genre de magazine, quand ils couvrent un nouveau sujet, il y a toujours des belles illustrations, tu sais, un peu artistiques, mais avec, je sais pas, une seringue en gros plan, une étoile, un machin, mais c'est pas des vraies photos qui illustrent l'article vraiment avec... Enfin, l'image n'est pas un contenu, elle est genre juste décorative, on va dire. Bah, ce genre d'image, c'est clairement ce genre de truc que tu peux faire avec Midjourney, quoi.
Complètement. Et d'ailleurs, le succès de Midjourney... Ouais. Non, mais je suis d'accord. Le succès de Midjourney s'est fait sentir parce que Dali, qu'on évoquait tout à l'heure, qui était un petit peu le premier à ouvrir les vannes avec Dali 2, de ces générateurs réalistes, vient d'annoncer que Dali 2 était disponible pour tout le monde. Aujourd'hui, il n'y avait plus besoin d'avoir une invitation à la bêta. Et je crois que... Alors, il y a plein de questions sur la sécurité d'utilisation, etc., qu'ils avaient mis en avant, mais moi, je pense que c'est simplement parce qu'ils ont vu que Midjourney était tellement populaire, ils se sont dit, on est en train de perdre notre avance.
Ouais.
Et donc, Dali 2 est maintenant disponible, a priori, pour tout le monde. Donc, ça continue à évoluer dans ce domaine de la génération d'images par IA. Mais le plus impressionnant, à ce stade, c'est qu'on arrive déjà à la vidéo, quoi. À la vidéo à partir de rien. C'est même pas des deepfakes. C'est à partir de rien, c'est à partir d'une requête. À voir, il y a partir de rien et il y a retourner à rien. Et dans ce domaine, Google est assez expert. J'espère que tu apprécies la transition, Corben.
Oui, je vois ça.
Elle m'est venue toute seule, tu vois. Elle a été générée par une IA de transition qui me l'a envoyée dans la tête directement. Google a annoncé qu'ils allaient clôturer Stadia le 18 janvier 2023. Et rembourser tous les achats qui ont été faits sur le service, y compris les achats matériels. Alors, si vous ne suivez pas l'actualité du jeu vidéo, vous ne savez peut-être pas ce qu'est Stadia, mais ça a des implications, je crois, un petit peu au-delà de cette industrie-là. Nous, on en parlera dans le rendez-vous jeu jeudi. Mais ce que je veux évoquer ici, c'est... Alors, vous rappelez rapidement de quoi il s'agit, et puis surtout les conséquences sur Google dans son ensemble. Google avait lancé il y a quelques années de ça, il n'y a même pas si longtemps, c'était en 2019, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, tu te souviens, toi ?
Non, je ne me souviens plus du tout.
Ils avaient lancé donc Stadia, qui était un service de jeux vidéo par streaming. Un service de jeux vidéo par streaming qui était un petit peu en avance sur le reste de la concurrence. Alors, il y avait déjà des services qui existaient, mais techniquement, il était vraiment impressionnant. Moi, je l'avais testé à l'époque. J'étais même un fondateur de Stadia. J'avais acheté le pack de lancement. Et le service, donc, vous permettait de jouer à des jeux vidéo sur n'importe quelle machine, sur un téléphone, sur votre Mac, sur votre Chromebook, directement depuis votre navigateur. Et le jeu était calculé, les images du jeu étaient calculées donc sur le serveur de Google, et il vous l'envoyait, et vous envoyez les instructions de la manette au serveur qui allait recalculer les images en fonction. Alors, c'est une technique qu'ont développé différents acteurs. On pense à Nvidia, à Microsoft, bien sûr, avec... xCloud dans le Game Pass, mais Google était, je pense, au moment où ils sont arrivés, extrêmement en avance au niveau technique. Le truc, c'est que commercialement, leur offre était vraiment pas bonne. Ils proposaient uniquement l'achat de jeux à l'unité Et déjà au lancement, alors le fait d'acheter un jeu pour un truc à l'unité qui est dans le cloud, c'était moins attrayant qu'un abonnement où on se disait, bon, bah, je m'abonne un petit peu comme pour Netflix, j'ai plusieurs jeux, peut-être même tous les jeux de leur catalogue, et je peux y jouer, et puis, bon, un jour, j'arrête mon abonnement, c'est pas très grave. C'est pas ce choix qu'ils ont fait, même s'il y avait la partie pro qui était un petit peu différente, surtout au lancement, l'abonnement Stadia Pro. Bah, au lancement, même s'ils ont accumulé des jeux au bout de quelques mois, quelques années, bah, au lancement, il y en avait très très peu. Donc, l'offre n'était pas intéressante. Et surtout, beaucoup de gens craignaient la fermeture du service parce que Google a un historique dans ce domaine, lancé des services qu'ils vont fermer ensuite. C'est même devenu un, plus qu'un mème. Hein. Il y a un site très connu qui s'appelle Killed by Google et c'est devenu une associé, vraiment, ça colle à la peau de Google, cette idée. Donc, quand Stadia a été lancé, il y avait déjà des gens qui annonçaient que ça allait durer 2 ans et qu'ils allaient arrêter les frais. Les responsables de Stadia, dont Phil Harrison, qui est un exécutif du jeu vidéo, qui a d'ailleurs présidé aux plus grandes, c'est une série incroyable, hein. Rien que sa présence aurait dû nous inquiéter. Il a présidé aux plus grands échecs de l'industrie. Le pauvre, je suis sûr qu'il n'y était pas vraiment pour quelque chose lui-même, mais il était dans les plus grands échecs de tous les fabricants de consoles de l'industrie. Et ben, il disait, non, mais vous devez juste nous faire confiance, vous allez voir, on a de grandes ambitions pour Stadia, vous verrez. Vous verrez, en fait, c'est ça qu'il disait. Vous verrez, ouais. On vous prouvera que vos craintes sont infondées. Et là, quelques années plus tard, le service ferme. Alors, pour la question du jeu vidéo, il y aurait des choses à dire. On en parlera peut-être dans le rendez-vous jeu. Mais au-delà de ça, je crois qu'on arrivait à un moment où ils avaient été tellement ambitieux. Enfin, leurs ambitions affichées étaient vraiment claires. Et on avait déjà, au moment du lancement, donc, cette image de Google qui abandonne tous ses produits. C'était plus juste. On constate qu'ils abandonnent tous leurs produits, mais on sait qu'ils abandonnent tous leurs produits et on leur met cette réalité devant les yeux pour leur dire « Mais pourquoi est-ce que vous pouvez nous assurer que vous n'allez pas abandonner celui-là » Et ils ont répondu « Vous verrez, on ne va pas l'abandonner » et ils l'abandonnent quand même. Donc ça passe encore une étape dans cette image de Google qui... c'est presque le Rubicon, là. Là, j'ai vu avec... La fermeture de Stadia, encore plus qu'ailleurs, encore plus qu'avant, et peut-être que moi, je me disais, c'est pas possible, là, ils sont tellement au courant de ce problème, et ils ont tellement clairement dit, non, vous inquiétez pas, on est là sur le long terme, c'est pas possible, ils vont pas le fermer. J'y croyais pas qu'ils allaient fermer Stadia, même s'il y avait eu des signes avant-coureurs, des problèmes, je pensais qu'ils allaient pivoter, faire des trucs en marque blanche, etc. Et donc, on constate qu'ils le ferment. Ce qui m'intéresse plus dans l'orientation tech, c'est... est-ce que c'est un problème, d'une part, d'image pour Google, et d'autre part, même de fonctionnement interne de Google, parce que c'est plus qu'une blague, quoi. C'est une tragédie qui se répète à l'infini, cette histoire. Tu penses que c'est vraiment un problème sérieux pour Google, ça ?
Non, je pense pas, en fait, parce que j'ai lu un article ce matin qui était intéressant. Alors, je l'ai lu un peu en diagonale, mais en gros, l'idée, c'était de dire qu'en fait, pour Google ou même d'autres, ça revenait plus cher d'entretenir un service qui marche pas, enfin, qui marche, ou enfin, en tout cas, ancien et qui marche pas, plutôt que soit de le refaire de zéro, soit d'en proposer un nouveau qui fait le buzz, en fait, tu vois, dont tout le monde parle, en fait. C'est-à-dire que, économiquement, ça rapporte plus à Google de lancer tout le temps des nouveaux trucs que de maintenir des trucs qui marchent à moitié ou voilà qui sont même qui marchent mais qui sont tellement anciens que plus personne n'en parle, tu vois. Et en fait voilà, ça partait de ce constat là donc est-ce que Google vraiment galérer avec son truc plutôt que de le faire pivoter, va peut-être revenir plus tard avec un nouveau truc et ça va réexciter les médias, ça va rebuzzer, ça va, etc. Est-ce que c'est économiquement, on va dire, plus viable? Ou est-ce que... je sais pas. Je pense qu'ils explorent. Ils doivent être tellement loin de la façon dont on réfléchit, nous, qu'ils sont peut-être... ils sont peut-être tellement dans le futur, on va dire, que c'est peut-être plus simple pour eux de bosser déjà sur le futur de ce genre de truc et de mettre aux toilettes Stadia plutôt que d'essayer de le ressusciter ou de le tordre dans tous les sens pour que les gens l'adoptent, quoi. Après, c'est grillé, quelque part.
Tu veux dire que le service, en l'occurrence Stadia, ça décollait pas, ça décollait pas, ça servait à rien de continuer à le pousser pendant 3 ans de plus pour de toute façon lui imposer une mort lente, alors qu'ils peuvent revenir dans 5 ans ou 6 ans avec un autre truc qui se base sur les mêmes technologies et qui se relancera, qui sera plus efficace.
Surtout, fera parler de lui très facilement puisque ça sera nouveau, tu vois.
Je comprends cette idée, effectivement. Et puis, d'une certaine manière, on peut se dire que la raison pour laquelle ils ferment tellement de produits et tellement de projets, c'est parce qu'ils en lancent énormément. Donc, ils essayent énormément de choses. C'est pas faux. Et je peux comprendre cette vision. D'un autre côté, moi, je pense que très concrètement, ça nuit à la confiance des utilisateurs. Et du coup, même, ça peut aller, maintenant qu'on a eu tellement d'exemples, ça peut aller jusqu'à freiner l'adoption d'un service. Parce que si tu as un service qui pourrait peut-être t'intéresser, peut-être même pour ta société, et que tu sais que c'est Google qui l'a lancé, alors, à part Gmail, Google Search, YouTube et peut-être Google Docs, bah, tu sais pas si ça sera là dans 2-3 ans. Donc, transitionner tout ton workflow sur le nouveau service pour se dire bah, dans 2 ans, il sera peut-être plus là, ça peut avoir un effet pervers parce que les gens n'y vont pas parce qu'ils ont peur que Google le ferme. Du coup, ça décolle pas. Du coup, Google voit que ça décolle pas et du coup, Google le ferme. Tu vois, le cercle vicieux. Et puis, au-delà de ça, il y a eu aussi des témoignages. Alors, les témoignages d'anciens employés, on ne sait jamais exactement ce que ça vaut, mais ils faisaient état d'un problème structurel chez Google qui accorde une énorme valeur au lancement de produits et pas à leur suivi. C'est-à-dire qu'ils disaient la raison pour laquelle Google ferme tellement de produits, c'est que la promotion interne est basée sur les produits lancés. Si tu lances un produit, tu le mets dans ta présentation, ça fait classe pour tes supérieurs et tu peux obtenir une promotion. Mais dès que le produit est lancé, les ingénieurs et les programmeurs de talent se font transférer vers d'autres équipes et du coup, les gens qui restent sont les ingénieurs plus juniors ou les programmeurs plus juniors et le produit stagne. Et du coup, c'est là encore une sorte de cercle vicieux parce que au niveau interne, alors encore une fois, je ne sais pas exactement ce que ça vaut ce témoignage, mais au niveau interne, ils disent la structure de la société fait que le moyen de progresser dans la boîte, c'est de lancer des trucs. Les maintenir, ça ne t'apporte rien pour ta carrière. Donc, tout ça, ça s'est tellement produit, tu vois, que ça m'interroge quand même un petit peu. Et le fait que, je plaisantais à moitié avec Google Search, YouTube, Gmail et Google Apps. Alors bien sûr, il y a Android à côté, hein, mais le fait que la boîte ne soit pas super bien menée, moi j'ai l'impression qu'il y a en tout cas un potentiel qui est pas exploité quoi, dans cette boîte. Et le problème me semble plus profond que juste, bon, bah, on a... on lance plein de produits pour voir ce qui marche, parce qu'il n'y a rien qui marche, en fait. Tous les produits que j'ai évoqués là, c'est des trucs qui ont été lancés il y a plus de 10 ans. Et c'est préoccupant, je trouve, pour une boîte de cette taille.
C'est vrai. Heureusement qu'on n'a pas des actions chez eux. Hein.
Oui, c'est sûr que les pauvres, on va les plaindre. Ces pauvres Google, quand même. Non, mais tu sais, bon... clairement, sur la recherche, ils sont indéboulonnables, donc ils ne vont pas disparaître demain. Mais le potentiel me paraît pas très bien exploité, quoi. Beaucoup de gens critiquent Sundar Pichai depuis quelques années, et je crois qu'il y a... Et peut-être que c'est qu'on se rend pas compte de la complexité de gestion d'une boîte comme celle-là, hein, c'est possible aussi, mais...
Bon. Oui, ça aussi.
D'ailleurs, ils ont aussi lancé la section discussion et forum dans Google Search, hein, la recherche, qu'on évoquait il y a quelques semaines de ça. Alors, elle n'est pas lancée partout dans le monde, si je ne me trompe pas, mais c'est à côté des résultats que vous avez traditionnellement. Il y a la section, en gros, c'est un petit peu l'update Reddit. On en parlait il y a quelques semaines. Quand on fait une recherche, on a souvent des sites de mauvaise qualité et beaucoup de gens vont aller chercher les réponses sur des choses comme Quora ou Reddit où c'est des vrais gens qui vont répondre à cette question spécifique que vous êtes posée. Et Google s'est rendu compte qu'il y en avait tellement qu'ils ont intégré ça à leur recherche directement, plutôt que d'avoir une, simplement les faire partie de la recherche organique. Ben là, ils vont excentrer la section discussion et forum pour que ceux qui veulent ce type de recherche puissent y avoir accès plus facilement. Bon, pour la recherche, ils travaillent dessus, hein, ça, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Amazon a aussi annoncé différentes choses. Il y avait un petit événement. Alors, il y a plein de choses qui ne sont pas hyper intéressantes. Hein, des rings, des échos, différents types de Echo Show, de Echo Bidule. Vous savez, tout ce système de maisons connectées avec les différents endpoints de leurs maisons connectées. Les choses qui ont retenu mon attention, alors il y a des mises à jour du robot Astro qui peut maintenant détecter les animaux de compagnie. Bravo, Astro, il ne va pas leur rouler dessus, c'est pas mal. Mais surtout, un nouveau Kindle qui s'appelle le Kindle Scribe, qui permet de lire mais aussi d'écrire. C'est vraiment une nouvelle étape dans la gamme Kindle, qui existe depuis bien longtemps maintenant. Il coûte bon, presque 400 euros, mais c'est un écran e-ink comme toujours, avec un écran de 10 pouces, 10,2 pouces, et on a du coup un stylet pour prendre des notes, c'est 340$ aux États-Unis. Et puis l'autre chose qui a retenu mon attention, c'est le partenariat entre BMW et Amazon, qui permettra à BMW d'utiliser une sorte de clone d'Alexa, pour en faire son propre assistant vocal pour ses voitures. Donc BMW, en fait, va bénéficier de la technologie Alexa, mais pas utiliser Alexa en tant qu'Alexa, mais créer son propre assistant vocal pour ses voitures. À un moment où Apple et d'autres sont en train de complètement s'approprier les tableaux de bord de certaines voitures, comme on en parlait avec CarPlay, il y a quelques semaines, et c'est le cas d'Android aussi qui se dirige dans cette direction. C'est intéressant de voir que BMW veut se démarquer avec son assistant vocal, mais ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir créer cette technologie de nulle part, et donc ils empruntent celle d'Alexa. Ça restera un assistant isolé dans les voitures BMW qui ne fonctionnera pas vraiment avec le reste de l'écosystème informatique des utilisateurs. Donc, je ne sais pas à quel point ça sera efficace, mais ça devrait arriver dans les deux prochaines années. Donc, on pourra juger par nous-mêmes. Donc, entre le Kindle et les voitures, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, toi, Corben, dans les annonces d'Amazon ?
Kindle que voiture, mais... Non, le Kindle Scribe, ça m'intéresse. Je trouve que c'est... Enfin, faut essayer parce que dans
t'es un utilisateur de tablette, toi, de lecture.
Pas du tout tablette, beaucoup moins Kindle, oui. Tablette, pas du tout.
Non, je parle de Kindle, tablette de lecture, oui.
Ah, Kindle, ouais, Kindle, ouais, je suis très utilisateur de Kindle. Après, y a, en concurrent, il y a Remarkable 2, qui est pas mal, il paraît. Voilà, c'est mon pote Rémi qui avait fait un test sur mon site, hein, si t'as envie d'aller le lire. Voilà, là-dessus, il l'avait testé et reçu. Moi, je l'avais pas testé encore, je sais pas ce que...
Le Remarkable, on en avait fait un after show avec un auditeur qui avait le 1 et le 2 et qui en était très, très, très satisfait. C'est il y a quelques semaines. Donc oui, clairement, c'est dans cette direction qu'il se dirige.
Ouais. Maintenant... voir si c'est aussi bien, si c'est moins bien, si c'est mieux que le Remarkable 2, mais en tout cas, voilà, moi je trouve... Enfin, j'irais pas racheter une... En fait, le problème des Kindle, enfin, je pense que c'est le problème d'Amazon, c'est qu'ils ont fait un produit qui est quand même... qui a pas besoin de beaucoup de performance, donc c'est pas trop la course à la perf pour pouvoir en racheter un nouveau tous les ans, quoi. Ils sont assez résistants, donc franchement, un Kindle, t'en achètes un, et après, tu le traînes pendant très longtemps, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils en vendent, à mon avis, ils en vendent pas non plus des palettes entières. En tout cas, quand on a un, ils en revendent pas un nouveau, quoi. Donc là, c'est peut-être un moyen d'attirer un peu les gens qui possèdent déjà un Kindle mais qui sont frustrés de pas pouvoir écrire. Maintenant, moi, j'écris pas trop, donc bon, voilà, quoi. Enfin, j'écris sur l'ordi, mais j'écris pas sur papier. Donc ça me manque pas trop, mais bon, pourquoi pas, à voir. Pour les étudiants, ça peut être pas mal, ou les gens qui bossent, qui aiment bien bosser à l'écrit, ont toujours plein de notes à prendre, de trucs. Bon, voir comment c'est géré après.
à voir vraiment effectivement comment c'est géré, comme tu le dis, parce que j'ai l'impression que c'est surtout pour prendre des notes sur des documents existants, sur peut-être des livres, et j'ai très très peur de la compatibilité avec d'autres systèmes de travail, tu vois. Qu'est-ce que tu vas ouais. pouvoir faire de tes notes, où tu les importes, comment elles sont formatées, etc. Est-ce que tu as une sorte de notepad où tu peux faire des notes complètement libres? Est-ce que c'est uniquement sur les documents que tu as déjà téléchargés, etc., etc. Donc, et j'ai l'impression que c'est plutôt dans cette direction qu'il se dirige pour ce premier modèle. Peut-être que ça évoluera à terme. Mais j'ai un peu peur de la compatibilité de l'appareil. Donc, à garder à l'esprit. Mais je suis certain que chez Remarkable, quand Amazon a annoncé le Kindle Scribe, à mon avis, ils ont serré les fesses, tu vois, parce que c'est pas du tout puissance de frappe.
Ouais.
Et la dernière news à retenir qu'on voulait évoquer aujourd'hui, c'est parler un petit peu d'Elon Musk, pas avec Twitter, enfin si, quand même, il y a un petit peu d'Elon Musk et Twitter, mais la présentation du robot Optimus, qu'ils avaient annoncé il y a quoi, 2 ans, le robot Optimus d'Elon Musk, et qui, enfin, ils avaient annoncé qu'ils travaillaient dessus avec cette, vous vous en souviendrez peut-être, cette blague où il y avait quelqu'un dans un costume en latex qui était venu en marchant, genre je suis un robot. Et en l'occurrence, eh ben, ils ont présenté le vrai robot ce coup-ci, ou en tout cas le premier modèle. Comment dire ? Donc, c'est les technologies Tesla qui ont été implémentées dans ce robot. C'est un robot qui... Alors, il y a le robot lui-même, et puis il y a les réactions au robot, qui pour moi, les deux éléments sont parlants. D'abord, Elon Musk dit que c'est un robot humanoïde qu'il pourra rendre disponible au grand public dans quelques années seulement pour, il pense, moins de $20,000. Alors, les promesses d'Elon Musk, on sait ce qu'elles valent. Hein. Généralement, ça ne se concrétise pas tout à fait exactement comme il l'a promis. Mais surtout, donc, le robot en lui-même... Bah, toi, tu as vu sa démarche sur la scène. Qu'est-ce que tu as pensé de ce robot? Est-ce qu'il t'a impressionné? Est-ce que tu as mordu à la hype de Musk qui te dit que c'est le prochain compagnon des humains?
À la hype, non, parce que bon, pour l'instant, on voit quand les mecs l'installent, tu vois que le truc, il est un peu... Enfin, on est encore sur un top proto, ça fait pas rêver en tout cas.
Ouais.
Parce que ce qu'il a présenté, ça fait pas rêver, ça on dirait un animatronique de film, quoi, tu vois. Donc, dans un parc d'attractions, tu vois, un peu. Mmh. Donc après, moi, sur tout le discours... tu vas avoir je me mets à la place, je me dis ça serait trop bien pour moi, tu vois, parce que imagine un robot qui marche, qui est un peu, qui marche bien, qui se déplace bien, qui a de la force, etc. Il va tondre la pelouse à ma place, tu vois, il va aller couper des arbres à ma place, il va faire des trucs, tu vois, un peu physique comme ça, dans la merde, ou alors il va faire la bouffe nickel, parce qu'il va bien savoir comment on épluche les oignons, tu vois. Donc sur le concept valeur ajoutée, si c'est bien fait un peu comme dans les films, en tout cas moi ça me fait rêver. Maintenant moi ce que j'ai peur, c'est que, enfin voilà, ce que j'avais cru comprendre aussi ce truc là, c'est qu'il vendait à petit prix pour que derrière il te colle tous les packs et les extensions et les modules d'intelligence artificielle. Mmh. Si tu veux que ton robot il fasse la cuisine, faut prendre l'option à 10 000 euros qui dit je fais la cuisine. Si tu veux l'option je fais le ménage, bah pareil, tu vas devoir rajouter un pack. Et on l'a vu avec les Tesla, hein, quand il y a un truc, tu vois, il peut couper des trucs à distance ou activer des choses à distance, etc. On va rester sur un truc qui ne t'appartient pas. Et puis, si demain il veut retirer une fonction ou si demain il veut rajouter un truc, il peut, quoi, à distance, quoi. Donc, ouais, je suis un peu mitigé, quoi. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée de, mais peu importe la marque, en fait, peu importe la société qui te fabrique, mais j'aime bien l'idée d'un robot qui va quelque part m'aider dans ma vie de tous les jours, tu vois, pour parce que au lieu d'être tout seul à faire les travaux chez moi, bon, on sera deux, et ça sera génial.
Avec ton ami que t'as payé pour être ton ami.
Ma femme m'entendait, elle me mettrait une claque derrière la tête parce qu'elle m'aide beaucoup aussi. Mais voilà. Mais par contre, sur le Sur le robot en lui-même, le fait que ce soit Tesla qui le vende, ça laisse rien présager de bon, en tout cas moi,
Ouais.
sur l'idée que j'en ai, quoi.
Bah, oui et non. Disons que ce qui est intéressant avec la vision d'Elon Musk, effectivement, c'est qu'il a une vision pour ce type de produit. Ce type de produit, je pense, enfin, on pense tous aux deux sociétés qui ont eu beaucoup de succès qu'il a lancées ou reprises, c'est Tesla et SpaceX. Et il faut avouer qu'il a pris des fantasmes qui étaient latents dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif depuis parfois des décennies, et qu'il en a lancé des applications commerciales extrêmement efficaces. Alors, il y a aussi eu des plantages assez éclatants, hein, c'est indéniable. Mais là où c'est intéressant avec le robot, c'est que si vraiment il s'attaque à cette idée de faire un robot humanoïde, l'intérêt d'avoir un robot humanoïde, c'est qu'il est adapté à une société d'humanoïdes. Donc, quand on dit, ah ben, pourra tondre la pelouse et couper des arbres, on peut imaginer un robot qui va tondre la pelouse tout seul, mais ce robot-là, il pourra pas, enfin, je veux dire, une sorte de tondeuse avec moteur et intelligence artificielle derrière, comme une sorte de Roomba qui va tondre la pelouse, je suis sûr que ça existe d'ailleurs, mais ce
Oui,
robot-là, il pourra pas aussi couper les arbres et il pourra pas faire la cuisine. Donc, l'intérêt d'un truc humanoïde, c'est qu'il est adapté à tout ce que nous, on fait. Et donc, cette idée, je crois, est assez enthousiasmante. Et du coup, le fait que quelqu'un comme Elon Musk se mette à ça, il y a une perspective. Puis une perspective sur le type de développement de produits aussi. Parce que tu disais, les Tesla, on peut couper à distance, machin, c'est vrai. Mais c'est aussi une fonction du fait qu'il a pensé les voitures comme des objets informatiques avant que ça ne soit des objets mécaniques. Et du coup, les voitures sont mises à jour tout le temps, ont des nouvelles fonctionnalités, etc. Alors, il y a les avantages et les inconvénients, mais il y a quand même des avantages à avoir ce type de développement qui sont indéniables. Donc ça, c'est pour tout l'aspect un petit peu fantasme. La réalité concrète, c'est que je t'ai trouvé assez généreux avec la description du robot. Enfin, il est quand même tout pourri, quoi. La réalité, c'est une sorte de machin, oui, c'est une sorte d'animatronique, comme tu le disais. Il bouge très lentement, il a des mouvements très hésitants, et c'est le truc programmé, millimétré qu'ils ont fait pour la présentation du truc. Enfin, on est à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui dans le domaine. Les gens de Boston Dynamics, ils ont dû voir ça arriver sur scène. Enfin, ils se sont esclaffés, quoi, je pense. C'est l'équivalent de ce qu'on voyait chez Boston Dynamics il y a 10 ans, 15 ans. Alors, ça ne veut pas dire que la V2 du robot Tesla ne sera pas bien meilleure et peut-être rattrapera Boston Dynamics assez vite. C'est de la haute technologie très complexe, très spécialisée. Mais en l'état, il l'a présenté, comme il le fait toujours, et c'est normal, comme quelque chose qui était impressionnant technologiquement. Enfin, la plupart des gens ont été assez, comment dire, dubitatif, je crois.
Oui, bah oui.
C'est
Hyperpié notre Elon.
voilà, ça, sur différents. Je ne sais pas si tu as vu la liste des. Il y a des messages SMS qui ont été rendus publics avec le procès avec Twitter. La manière dont il discute avec ses amis millionnaires de tous ces sujets est assez. C'est une newsletter qui s'appelle Big Technology qui les a présentés et commentés un peu. Pardon. C'est assez édifiant. Ça nous fait rentrer un petit peu dans dans la tête de Elon Musk et de ses amis. C'est impressionnant. Enfin, c'est pas des jeux, mais tu sens comment il a commencé à être excité par l'idée d'acquérir Twitter, et puis comment les gens ont commencé à lui parler, à s'intéresser plus à lui, parce que Twitter, c'est un énorme morceau de pouvoir de communication. C'est ça que ça représente. Et du coup, il y a plein de gens qui ont commencé à essayer de lui parler. Et comment il a commencé à se désintéresser du truc. Enfin, c'est très impressionnant. Une newsletter qui s'appelle Big Technology sur Substack. Vous pouvez aller la chercher si vous voulez. Ou chercher les messages textes d'Elon Musk, vous les trouverez quelque part. Très impressionnant. Et puis à côté de ça, il a commencé à faire des plans sur Twitter pour mettre fin au conflit ukrainien, enfin ce genre de truc. D'ailleurs, il s'est fait insulter par tous les diplomates de la Terre. Enfin, c'est vraiment un type qui ne se rend pas compte de sa responsabilité, ou peut-être qui en joue de manière irresponsable. Mais on a une telle influence, with great power comes great responsibility. Mais bref.
Mais il refuse ça, je pense, cette idée de justement de grand pouvoir, parce que finalement, on dit qu'il a un grand pouvoir, mais il est pas, il gère beaucoup de choses. Enfin, il y a des grosses boîtes, mais il est pas, c'est pas un président des États-Unis. Il est pas au niveau politique, tu vois. Donc après, tout le monde sait qu'il est un peu farfelu. Enfin, je pense pas qu'il pourra déclencher une guerre avec juste un tweet, tu vois. Mais...
Ça non. Enfin bon, là en l'occurrence, la guerre dont il parle, elle est déjà en cours. Mais
une nouvelle ligne de plus.
Non, mais tu sais, il est très, très, très écouté quand même. Alors oui, tu as raison, il n'a pas de responsabilité ou de pouvoir politique, donc ce n'est pas non plus ce type de pouvoir dont on parle. Mais les choses dont il parlait, par exemple, dans son plan de paix pour l'Ukraine, qui était complètement ridicule, était... je ne sais même pas si je vais en parler beaucoup, quoi. Mais ça légitimait la position russe. Tu vois, c'est genre, on n'a qu'à refaire un référendum, mais mieux encadré, du coup. Et puis, on pourrait laisser la Crimée à la Russie. Et puis, et même si c'est des choses dont la plupart des gens savent que ça n'a pas de sens, ça légitimise l'idée. Et puis après, il y a des gens qui vont se référer à ça pour dire, oui, mais regarde, on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Enfin, tu vois, c'est dangereux ce qu'il fait, quoi. Moi, je trouve qu'il joue avec le feu, quand même. Mais bon, bref. Elon Musk, il a présenté son robot. Peut-être que dans 3 ans, il y aura Optimus version 2 et qu'on devra manger notre chapeau parce qu'il est tellement impressionnant et techniquement développé que on sera...
C'est des chances, hein.
C'est possible, c'est tout à fait possible, c'est sûr. Bref, on a fait une petite pause que vous n'avez pas entendue pour que je crache un petit peu mes poumons. Donc, maintenant qu'ils ont été crachés, je devrais pouvoir revenir. J'ai même mis un petit pchit dans la gorge. C'est pratique, en fait, d'avoir des maladies, tu sais, qui te font tousser quand t'es podcasteur.
Elon Musk a dit, de toute façon, les poumons, ça sert à rien. Il va te faire des poumons du futur, t'inquiète.
Les
poumons, c'est has-been.
Ouais, donc, complètement. Les petits poumons. Aux petits poumons, je les attends. Mais il m'a dit qu'il me les envoyait, c'est pour ça que j'ai craché. Et puis, ils doivent arriver maintenant, là, donc, d'ici la fin de l'épisode. Bon, vous savez aussi ce qui est encore plus efficace que les robots Optimus d'Elon Musk ? Patreon.com/RDVTech. Je vais le faire très court, hein, parce que je suis tout seul et fatigué, donc je vais pas l'éditer out de la formule Patreon privée de l'épisode, donc vous aurez ça aussi. Et du coup, je vais vous encourager tous à remercier les patriotes qui vous permettent d'avoir cette émission gratuitement pour vous. Si vous voulez devenir un patriote et soutenir financièrement l'émission, vous pouvez le faire sur patreon.com/RDVTech. Plein de bonus super cool, des timecodes, des contenus bonus, etc. Et en plus, surtout, la fierté, messieurs, dames, d'être un héros qui soutient le Rendez-vous Tech. Merci à vous tous et à vous toutes. Patreon.com/RDVTech.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on arrive à la partie le reste de l'actu. C'est les cocotiers, la plage, tout ça, vous voyez, tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe sous les cocotiers ? Eh bien, Twitter copie TikTok. C'est tout le monde, hein. Tout le monde copie tout le monde, on le sait. Mais Twitter voudrait visiblement ajouter une interface full screen vidéo pour... Alors, c'est pas tout à fait pour des vidéos à la TikTok et c'est pas sur la page principale, mais dans la partie Explore de l'application iOS et Android, il y aurait désormais une section qui vous permet de voir les vidéos en plein écran, à la suite les unes des autres, dans une interface qui ressemble un petit peu à celle de TikTok. Pourquoi pas, hein ? Il peut y avoir des vidéos intéressantes ou marrantes sur Twitter, mais je pense que c'est surtout l'interface, en fait, qui est une bonne interface pour naviguer dans les vidéos. C'est surtout ça qui copie. C'est pas que Twitter va se transformer en TikTok. Là, on n'est pas comme Instagram qui copie à fond TikTok. Je pense que c'est juste pour copier l'interface. De la même manière qu'on avait vu des interfaces de stories dans Netflix, par exemple, pour vous présenter les différents trailers. Voilà, c'est un petit peu pareil. C'est juste une copie de...
Je sais pas, en fait, parce que je me dis, tu vois, par exemple, quand tu prends un format comme ça, story, sur TikTok, enfin, moi, je regarde pas mal TikTok, et c'est vrai que c'est... Enfin, il y a souvent des vidéos de qualité, on va dire, qui sont travaillées. Mm-hmm. Peut-être que Twitter pourrait, à un moment, commencer à diffuser de l'information, tu vois, de qualitative, on va dire, sous ce format-là. Voilà, avec cet effet un peu de je scroll et je passe à la news suivante, quoi.
Possible,
vois, ça serait marrant pour les créateurs, en tout cas, de contenu, de pouvoir proposer, en plus de leurs tweets, des vidéos comme ça pour illustrer ou pour, voilà, pour faire leur contenu, quoi.
Bah, à vrai dire, ce que ça peut amener assez vite, c'est un sujet dont on parlait la semaine dernière d'ailleurs, c'est le fait que les créateurs de contenu qui font déjà du contenu au format TikTok et qui le postent sur TikTok, Instagram, Facebook, vont pouvoir l'exporter directement sur Twitter aussi. Donc peut-être que ça amènera, ça va peupler ce tab-là assez vite avec du contenu d'un type qui n'existe pas aujourd'hui sur Twitter. C'est possible aussi, même si on partage beaucoup de vidéos TikTok sur Twitter, mais là, le format sera adapté. Bruce Willis, alors ça, c'est un truc que j'ai posté sur le Discord parce que ça me paraissait complètement fou, vraiment une grosse étape encore dans les deepfakes. Mais ça a été contredit par Bruce Willis lui-même. Alors, de quoi il s'agit ? On a eu un sujet il y a quelques jours de ça, disant que Bruce Willis avait vendu les droits de son double numérique à une société pour l'utilisation dans des publicités, par exemple, en deepfake, à une société qui avait déjà fait une publicité deepfake avec Bruce Willis pour le marché russe. Il se trouve que... Alors, donc l'idée, ça aurait été que le double numérique, donc le double en deepfake, on va dire, aurait été utilisable pour plus de publicité, sans forcément la participation même de Bruce Willis lui-même, qui d'ailleurs, vous en souviendrez peut-être, mais il a interrompu sa carrière au cinéma parce qu'il est atteint d'aphasie, qui est une maladie qui, peu à peu, lui ôte la faculté de parler et de comprendre le langage, ce qui est bon, vraiment, vraiment pas drôle. Mais il se trouve que la famille, ou lui-même, je ne sais pas, de Bruce Willis, ont contredit la chose, et DeepCake, la société en question, a confirmé qu'ils avaient travaillé uniquement pour cette publicité de 2021 et qu'ils n'avaient pas de droit pour plus que ça. Donc, c'était un rapport erroné. Ça aurait été quand même une grosse étape, mais je voulais le mentionner parce que vous l'avez peut-être déjà vu passer. Ça n'est pas encore le cas. On n'a pas un acteur qui a vendu les droits de son image ou loué les droits de son image pour sa participation à des publicités ou d'autres choses sans sa participation physique. Ça finira par arriver. Ouais. Tu penses aussi. Est-ce que tu peux me donner une estimation de la date à laquelle on verra ça pour la première fois ?
Bah oui, comme je suis Madame Soleil, je vais te faire ça sans problème. bah écoute, disons dans 2 ans. Hein, dans deux ans,
okay.
Non, mais
très bien.
Quand 2020, tu vois, avant 2020. Les technologies sont au point de coller le visage de quelqu'un sur une personne qui servirait un peu de mannequin, de doublure, quoi, si tu veux. C'est ça, se fait déjà. Donc après, c'est juste. Est-ce que l'artiste, enfin l'acteur qui va vendre ses droits, je pense que, enfin moi en tout cas, si j'étais acteur dans la position de Bruce Willis par exemple, donc c'est-à-dire avec une aphasie et que j'ai besoin de continuer à nourrir ma famille, mais je peux plus travailler, je pense que je mettrais quand même une clause dans le contrat qui dit je dois valider tout avant pour être sûr que je me retrouve pas dans un truc à la con où je me ridiculise, tu vois ce que je veux dire. Mais qu'après techniquement tout se fasse sans moi, bah franchement je signe. Hein.
Ouais. Je crois que c'est ça la partie un petit peu pivot, c'est que je pense pas que qui que ce soit va vendre les droits juste en ouvert. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'image. Il faudra toujours qu'il y ait une approbation à chaque étape. Et oui, donc, oui, c'est pas vraiment une vente de droits. C'est genre, bon, bah, on va travailler sur chaque projet individuellement. On peut imaginer aussi des gens qui feraient ça avec par exemple, les comment on dit, c'est pas la famille, mais on dit en anglais the estate. Les propriétaires des droits d'une l'image d'une personne décédée, par exemple, d'un acteur ou d'une personnalité, ouais, publique, pourraient utiliser ça.
Ça coûtera peut-être même moins cher que d'embaucher un acteur connu, tu vois.
Oui, oui, ça peut. On n'est pas encore à une étape de deepfake où c'est suffisamment convaincant, je crois, pour complètement remplacer dans un film, mais on pourra y arriver dans pas si longtemps que ça, quoi. Apple, alors, les résultats des lancements des iPhone 14 et iPhone 14 Pro semble montrer que les iPhone 14 ne trouvent pas un énorme succès. Alors, relatif, hein, c'est-à-dire qu'ils comptent en vendre 90 millions d'unités pour le deuxième semestre 2022, comme l'iPhone 13, contrairement à ce qu'ils pensaient à la base, qui était 96 millions. Donc ça va encore, mais clairement, le modèle qui a le plus de succès, c'est l'iPhone 14 Pro. Pas très surprenant, puisque l'iPhone 14 est très similaire à l'iPhone 13 et que le Pro est celui qui a les nouvelles nouveautés, les vraies nouveautés. Là où il y a quelque chose d'encore plus intéressant à noter sur ce que fait Apple, c'est que dans la dernière version d'iPadOS et d'iOS, il y a la fonctionnalité Stage Manager. Alors pour iPadOS, Stage Manager qui était réservé aux iPad avec processeur M1. Vous vous souvenez, Stage Manager, c'est cette fonctionnalité de fenêtrage qui vous permet d'avoir plusieurs fenêtres à l'écran de votre iPad. Eh bien, cette fonctionnalité de Stage Manager sera disponible sur les iPads les plus récents non équipés de puces M1. Donc, les iPads équipés de puces A12X et A12Z. La différence avec ceux qui sont équipés de puces M1, c'est qu'ils ne pourront pas être connectés à un écran externe avec un écran séparé. Ça sera pas avec, en gros, il y aura pas 8 fenêtres possibles entre les deux écrans, mais seulement les 4 fenêtres sur l'écran de base. Mais c'est intéressant parce que ils avaient été beaucoup critiqués pour le fait qu'ils ne permettaient pas aux iPads plus anciens d'avoir cette fonctionnalité. Et ben là, ça sera possible en partie au moins. Et à côté de ça, le mode transparence adaptative qui est disponible sur les AirPods Pro 2, c'est le mode de transparence, vous savez, d'écoute qui va atténuer les sons très forts sur avant de vous les transmettre dans votre oreille et va vous permettre donc d'entendre ce qui se passe à l'extérieur de vos AirPods, donc autour de vous, mais en atténuant les sons qui sont trop forts, et ben ce mode qui était exclusif aux AirPods Pro 2 va être inclus aux AirPods Pro 1. Il faudra voir s'il réussit à être aussi efficace et la qualité du son reste meilleure sur AirPods Pro 1. Mais c'est intéressant de voir qu'il rétroactivement, alors après qu'ils aient vendu déjà beaucoup d'AirPods Pro 2, qu'il rétroactivement réussisse à implémenter cette fonctionnalité sur les AirPods Pro tout court. Donc moi, je suis très friand. Ouais.
Il faut que ça se passe dans ce sens-là.
Il faut que quoi, pardon ?
Une fois que ça se passe dans ce sens-là.
C'est ça, ouais. c'est généralement. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas dit à la présentation. Et on a ce mode qui sera disponible pour les AirPods Pro et qui est encore mieux sur les AirPods Pro 2. C'est genre, sur AirPods Pro 2, on a ce mode qui est trop, trop cool. Et puis deux semaines plus tard, en scred, on le met aussi sur les AirPods Pro normaux. Donc, ouais. Bon, voilà. Intel a annoncé une application qui s'appelle Unison. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'app Unison de Intel ?
Pas du tout. Pas du tout, pas du tout.
C'est le rêve des utilisateurs de PC et d'iOS, ou même d'Android, mais surtout d'iOS. C'est une application qui est sur votre PC et sur votre téléphone qui vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des appels et des fichiers depuis votre téléphone Android sur votre PC. Et ça ne marche visiblement, malheureusement, que sur les 12e génération de processeurs PC qui arrivent cet automne. Mais Intel a développé donc une application spécifiquement pour ça. Pourquoi est-ce que c'est pas disponible sur Windows tout court? Pourquoi est-ce qu'il faut spécifiquement tel et tel type de processeur? Bah, je pense que c'est parce qu'Intel aime bien vendre ses processeurs à eux. Et les derniers, en priorité, ils disent qu'ils vont travailler au fait de l'adapter sur des processeurs plus anciens et qu'ils seraient peut-être ouverts à travailler avec d'autres fabricants comme AMD, mais il faudra que voir ce que ça donne. Bon. Mais je me demande comment ça marche, parce qu'il n'y a pas, à moins que je me trompe, comment est-ce qu'ils vont faire pour faire passer l'appel au PC? Sur Android, c'est très ouvert, donc on peut imaginer comment ça va passer. Mais sur iOS, peut-être qu'il y a des API qui sont réservées à d'autres choses qu'ils vont utiliser pour ça, je ne sais pas. Mais des appels sur le PC depuis le téléphone, depuis un iPhone, et surtout les messages textes, alors est-ce que ça va passer par iMessage ou est-ce que ça sera juste des SMS? Je ne sais pas, on verra. Ouais, mais unisson, ça arrive.
Je ne vois pas le problème.
Ah bah parce que... parce que Apple a fermé l'iPhone et que je pense pas que tu pourras avoir accès à iMessage depuis ton PC.
Ah.
Ben oui.
Bah, en fait, tu sais, sur iMessage est ouvert sur Android déjà, donc pourquoi pas. Enfin, ça peut être
iMessage, mais pas du tout. T'es fou. iMessage n'est pas du tout sur Android.
Il me semblait que tu pouvais envoyer des recevoir des iMessage depuis Android.
Ah mais non, c'est l'un des points de discussion intense.
Un site web, un truc comme ça, non?
Ah non, non, pas du tout. Alors, tu peux ouvrir... Ah non, ça, c'est les FaceTime que tu peux envoyer par site web, effectivement, à des utilisateurs qui ont Android, par exemple. Tu as raison. Oui, c'est par page web. Mais je ne crois pas que ça concerne iMessage. Hein. Enfin, je suis assez certain que ça ne concerne pas iMessage. D'accord, donc, c'est vrai que pour ça, ça pourrait peut-être fonctionner, effectivement, de passer par une page web en associant... Oui, mais non, parce qu'il faut... il faudrait du coup un troisième intervenant dans la conversation. Ce serait un peu compliqué, je crois. Bon, écoutez, on détaillera ça quand on verra l'application Unison, mais je ne suis pas certain que ça plaise beaucoup à Apple, ça, d'ailleurs. À voir. On va conclure avec deux petits sujets supplémentaires qui vont parler de Chine et de crypto et NFT. La Chine d'abord, Tencent est en train de revoir sa stratégie d'acquisition. Tencent, c'est une énorme société qui fait beaucoup de jeux vidéo en Chine et qui a été particulière. Voilà, vous voyez, c'est... Là, je commence à, ça fait une heure d'émission, je commence à en sentir les effets. Sumiasen, comme on dit au Japon. Qui a été particulièrement affecté par le crackdown du gouvernement chinois sur l'industrie tech et qui, du coup, est en train de se retourner vers l'Occident. Ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant... Tencent, c'est qu'ils prenaient des prises de participation minoritaires dans des sociétés de jeux vidéo un petit peu partout dans le monde, souvent minoritaires. Il arrivait d'avoir des participations majoritaires, mais c'était rare. En l'occurrence, ils ont décidé de se concentrer sur des prises de participation majoritaires, voire de contrôle, dans des sociétés de jeux vidéo partout dans le monde, mais particulièrement en Europe, et c'est dû à une chute de valeur boursière de 64% depuis janvier 2021. Ils ont perdu 600 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui est la plus grosse chute d'une société dans le monde, quoi. Donc voilà, ouais. Si vous vouliez voir les conséquences de la politique chinoise anti-secteur tech, ben, on commence à en voir beaucoup, on en parle régulièrement. Donc, Corben, c'est le moment de créer une société de jeux vidéo pour que Tencent vienne investir et te rendre riche.
Ouais, j'y ai bien pensé, mais la flemme. Hein.
La flemme, ok. Bon, ben écoute, quand tu auras acheté ton robot Optimus d'Elon Musk, tu pourras lui donner comme instruction voilà, de faire une société de jeux vidéo pour se faire racheter par... je pense que c'est une bonne idée.
C'est ça.
NFT et crypto, alors, on en parle depuis un moment, la chute, l'hiver des cryptos continue. Une firme d'analyse a estimé
que...
je suis sincèrement désolé, mais je vous assure que la semaine n'est vraiment pas facile. et que je me fais violence pour pouvoir faire cette émission. J'espère que vous appréciez mes efforts titanesques. Hein, la vraie dure vie des podcasteurs. Donc, les volumes d'échange de NFT ont chuté en septembre. Ils ont atteint 500 millions de dollars. Alors, vous allez me dire, 500 millions, c'est quand même énorme. Hein, ça reste beaucoup d'argent sur un mois comme volume d'échange pour des objets numériques en NFT. Alors, c'est vrai, c'est beaucoup, mais c'est une chute de 97% par rapport à janvier 2022. Donc, en 9 mois, le volume d'échange est passé de 17 milliards de dollars à moins de 500 millions. Si vous étiez impressionné par les 64% de chute de Tencent depuis janvier 2021, bah là, c'est 97% depuis janvier 2022 pour le volume d'échange de NFT, le volume global.
Ça ne veut pas forcément dire que le marché du NFT en déclin, ça veut surtout dire que la hype sur les prix exorbitants a dû bien baisser. Je pense qu'en termes de quantité de NFT, il y en a peut-être un petit peu moins quand même, mais il y en a quand même toujours un gros volume qui est échangé, mais plus à des prix de fou, quoi. Enfin, je pense que c'est peut-être revenu
raisonnable. C'est possible aussi que... je pense qu'il y a quand même des gens qui se sont refroidis un petit peu, hein, que le nom...
Oui,
ça serait intéressant de voir, pas juste le volume de... comment dire, le volume en termes de valeur, mais le volume en unité. Ce serait intéressant de voir ça aussi. J'irai regarder d'un petit peu plus près ce rapport. Mais ouais. Bah, les NFT continuent à faire du bruit, notamment avec un dessin de Frida Kahlo, c'est cette artiste mexicaine, qui a été transformée en NFT. Donc, il y a un collectionneur qui a scanné, en fait, ce dessin et qui a ensuite brûlé l'original. Et là, on arrive dans un domaine qui est à la fois scandaleux et intriguant au niveau artistique et au niveau technologique. Alors, il y a des interrogations sur est-ce qu'il a vraiment brûlé l'original, est-ce qu'il en a brûlé une copie, est-ce que c'était un coup monté, machin. Bon, on va mettre ça de côté une seconde. Peut-être que ce n'était pas l'original qu'il a brûlé, mais a priori, ça a été présenté comme ça. Et l'idée était, bah voilà, on a fait un NFT du truc, il va y en avoir X exemplaires, mais l'original a disparu, il a été transformé en NFT. Alors oui, c'est inutile si vous voulez, je suis tout à fait d'accord, mais artistiquement, je trouve que si c'était pas honteux et scandaleux, d'ailleurs le Mexique a engagé une procédure parce que c'est destruction de patrimoine national, enfin évidemment, mais encore une fois, si on met ça de côté, c'est artificiel parce que bah, il a brûlé l'objet pour que les NFT aient de la valeur, et en plus les NFT, c'est un objet numérique, on peut les reproduire autant qu'on veut, etc., etc. Oui, mais je trouve que artistiquement, c'est pas inintéressant l'idée de se dire, bah, si l'œuvre a été détruite, est-ce que le NFT a plus de valeur, il est en quantité limitée, etc., etc. Donc, je sais pas.
Ouais.
Tu
moi, je trouve que c'est un peu merdique quand même comme façon de faire. Après, tu vois, quand c'est un artiste comme Banksy qui détruit sa propre œuvre, tu vois, parce que ça fait partie de la démarche, je peux le comprendre. Tu vois, un artiste qui détruirait sa propre œuvre pour faire un NFT pourrait le comprendre, tu vois, sur le truc. Mais là, c'est quand même pas, c'est pas eux. Ouais. Enfin, tu vois, c'est pas une œuvre à eux. C'est un monument national, voilà. Enfin bref, c'est. Enfin, ouais. Je trouve ça un peu.
Je pense qu'on est d'accord. Et puis les réactions sont quand même plutôt sur cette ligne-là. J'essayais un tout petit peu de me faire. Mais j'avoue que là j'ai forcé un petit peu quand même. Quoi. D'ailleurs, comme je le disais, les autorités mexicaines sont très, très mécontentes. Hein. C'est des choses qui... Même si on pourrait dire, ah bah, il l'a acheté, c'est à lui. Oui, mais non. Il y a des trucs qui dépassent la propriété privée et qui sont des objets qui font partie du patrimoine culturel d'un pays. Et on n'a pas, enfin, si on parle de questions légales et de propriété, on n'a pas le droit de le détruire, quoi.
Mais les gens qui gâchent la nourriture au même niveau que cette personne, hein, je le précise.
Donc, quand tes enfants veulent pas finir leur brocoli, tu leur donnes l'exemple.
Et je leur imprime un NFT sur du papier.
Parfait, parfait. Et voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode du Rendez-vous Tech. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à Corben également de m'avoir accompagné dans cet épisode un petit peu difficile. Tu sais, c'est pas au moment les plus heureux, les plus faciles qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est au moment les plus compliqués. Et toi, tu étais là pour cet épisode. Donc, merci beaucoup.
Chez Jérôme et chez Cédric. Voilà, tant pis.
Chez Im Jérôme, oui, c'est ça. Vous pouvez leur envoyer des petites cloches, des petits émojis cloches. Shame à cette. Bon, les pauvres, ils avaient des empêchements. C'est pas qu'ils voulaient pas, mais quand même. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver dans ton potager, du coup, Corben ?
Eh bien, entre deux carottes sur corben.info et entre deux courgettes sur twitch.tv/corbenfr.
Magnifique, Corben FR. Tu lances pas un stream là après qu'on ait fini d'enregistrer ?
À 14h, je lance un stream.
Très bien. Bon, bah, j'irai regarder un
lundi,
petit peu.
Lundi, mardi et jeudi, 14h.
Lundi, mardi, jeudi, 14h sur Corben FR sur Twitch. Parfait. Eh ben, nous, on est généralement sur Twitch aussi, le mardi et le jeudi midi, quand je suis assez en forme pour faire ça et l'enregistrement en même temps. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Note Patrick, sur Discord, dans le Discord de Note Patrick, qui est vraiment un endroit super sympa où passer du temps ensemble. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, soutenir le Rendez-vous Tech, vous le savez, sur patreon.com/rdvtech. Si vous voulez rejoindre la grande famille des Patriotes, si vous voulez que votre vie veuille dire quelque chose, que votre vie ait un sens, eh bien, vous pourriez aller dans le sens de soutenir les créateurs que vous appréciez. Et vous savez quoi ? Je plaisante, mais à moitié, parce que sur Patreon, il y a plein de créateurs, des créateurs du monde entier, des créateurs français, que vous pourriez soutenir en créant votre compte Patreon aujourd'hui. Vous pourriez soutenir peut-être le Rendez-vous Tech, si vous l'appréciez, le Rendez-vous Jeu, par exemple, aussi. Mais vous pourriez aussi soutenir tout un tas de créateurs et qui, je pense, vous font passer du bon moment et mérite peut-être un petit soutien. Donc, pensez-y, allez sur patreon.com/rdvtech, regardez s'il y a quelque chose qui vous convient, et on vous attend dans la famille des Patriotes. On vous fait de grosses, grosses bises. J'espère que je serai remis pour le rendez-vous jeudi, et certainement pour le rendez-vous tech mardi prochain. Ça va être compliqué d'ailleurs, parce que je suis en vadrouille avec le petit, etc. Mais on va faire de notre mieux. Et puis, je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours. C'est certain, c'est certain. Ciao à tous, plein de bises.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.